VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Ouagadougou, 14h à Bujumbura, bienvenue à notre journal. Au Burkina Faso, 52 personnes ont été inculpées dans le coup d'État manqué de septembre. 5 mandats d'arrêt internationaux ont été émis et 43 personnes, dont les généraux Diendéré et Bassolé, sont déjà sous les verrous, selon la justice militaire. Bagassiko a joint à Ouagadougou Sita Sangaré, directeur de la justice militaire du Burkina Faso.
C'est confirmé qu'il y a 52 inculpés. On a 43 qui sont détenus en ce moment. 43 personnes qui sont détenues. Il y a 5 qui font l'objet de mandats d'arrêt internationaux. Il y a 4 qui ont été inculpés et laissés libres.
Alors, pour revenir sur les tests ADN, est-ce que ça peut constituer un frein pour l'avancement du dossier?
Non, je ne pense pas, parce que en réalité, les conditions dans lesquelles les corps ont été enterrés, ça a été enterré de façon très sommaire, dans des fosses peu profondes, et les corps étaient exposés à même le sol. Ajouté à cela, la longue durée, plus de 25 ans, donc vous comprenez que le temps a joué avec les conditions de conservation des corps dans les tombes. Ça n'a vraiment pas permis de conserver intact ses corps et la recherche des différents éléments n'a pas du tout été facilitée. Et finalement, l'expert a conclu qu'il était impossible de tirer quoi que ce soit dedans.
Sita Sangaré, directeur de la justice militaire du Burkina, nous parlait de l'enquête sur l'assassinat de l'ancien président Sankara. Au Niger, à moins de 2 mois de l'élection présidentielle, la Commission électorale nationale indépendante a annoncé mercredi qu'elle allait soumettre au contrôle de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, le fichier électoral. Une décision saluée par l'opposition en vue de la présidentielle de février. On écoute Maître Kadri Aoumarou Sanda, vice-président de la CENI.
Ce n'est pas parce que nous n'avons pas confiance, c'est pour créer les conditions de sérénité autour de la question électorale, parce que vous savez, s'il y a contestation au départ, il y aura contestation à la fin. C'est pour couper court à toutes ces contestations que la CENI, en toute indépendance, a pris la décision de confier le contrôle de ce fichier à l'OIF. Et je pense que tout le monde sera d'accord que l'OIF est l'organisme qui est à même de faire ce contrôle de manière à ce que le fichier soit accepté de tous.
Maître Kadri Aoumarou Sanda, vice-président de la CENI, au micro de notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa. Au Nigeria, nouveau chef d'accusation contre le leader indépendantiste Biafré Nnamdi Kanu, dont une cour avait ordonné la libération la semaine dernière. Les précisions de Michel Joseph.
Parmi les nouvelles charges retenues contre le séparatiste Biafré, celle d'appartenance à une organisation illégale. Détenu depuis le mois d'octobre par les services de sécurité nigérians, Nnamdi Kanu est l'un des fondateurs de l'organisation Peuple indigène du Biafra. Ce groupe interdit par les autorités nigérianes réclame l'indépendance du Biafra, région du sud-est du pays. Kanu dirige par ailleurs Radio Biafra, une station pirate véhiculant les idées des séparatistes biafrais. Lors de sa comparution mercredi, Nnamdi Kanu a refusé de répondre aux accusations, se disant persuadé qu'il n'aura pas un procès équitable devant la justice nigériane. Il avait bénéficié d'un non-lieu le 16 décembre, après avoir été relaxé des chefs d'accusation de conspiration et appartenance à une organisation illégale. La Haute Cour fédérale d'Abuja avait alors ordonné sa libération, mais il avait été maintenu en détention.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La nouvelle rébellion proclamée au Burundi n'a aucun avenir. C'est la réaction ce jeudi de la présidence burundaise. Rappelons qu'un ancien officier supérieur de l'armée, le lieutenant-colonel Edouard Nshimirimana, a annoncé mercredi la naissance de la FOREBU, la force républicaine du Burundi, qui regroupe selon lui les principaux groupes armés opérant dans le pays. Un embryon de rébellion harcelait depuis plusieurs mois les forces de sécurité à Bujumbura et en province, mais sa création n'avait jamais été officialisée et elle n'avait pas de nom. En République centrafricaine, les législatives et la présidentielle du 27 décembre semblent une fois de plus compromises. L'autorité nationale des élections, l'ANE, a admis mercredi qu'elle est à court de temps et d'aucuns parlent déjà de notre report de ces scrutins. Le reportage de notre envoyé spécial à Bangui, Catalina Orge, présenté par Lionel Gaïma.
1,7 million électeurs se sont inscrits pour voter. Les bulletins de vote qui sont arrivés cette semaine doivent être distribués à travers le pays. Une tâche monumentale en République centrafricaine où les déplacements restent difficiles. Moruba Sakanga est un agent de service de la logistique de l'ANE.
C'est beaucoup plus le temps qui nous manque parce que bon, on a été obligé de comprimer les dates. Donc le temps nous manque pour réaliser les activités de manière méthodique.
Autre souci, la situation sécuritaire qui demeure préoccupante. Les groupes armés ayant renversé le président François Bozizé en mars 2013 sont toujours présents à Bangui, la capitale, en particulier dans le quartier majoritairement musulman du PK5. Gilles Silla est le chef de service de sécurité de l'Agence nationale des élections.
Du côté du gouvernement, nous sommes limités. Alors notre sollicitude, c'est que la MINUSCA ou la communauté internationale mette des moyens de mobilité à la disposition des forces de sécurité intérieure.
La France, qui a déployé des soldats en RCA, tout comme la mission onusienne de maintien de la paix en Centrafrique, la MINUSCA, veulent que les élections se tiennent le 27 décembre comme prévu. C'est le seul moyen de sortir le pays de 3 ans de crise.
Voilà. Les États-Unis ont demandé mercredi au gouvernement de Djibouti de libérer des dirigeants de l'opposition arrêtés cette semaine lors d'une manifestation qui a fait au moins 7 morts. La diplomatie américaine incite le gouvernement de Djibouti à respecter le droit de ses citoyens à la liberté d'expression et à la liberté de rassemblement et association pacifique. Washington invite également le gouvernement a fait preuve de retenue alors que 7 civils ont été tués et 23 blessés lundi à Djibouti dans les affrontements avec la police, selon un bilan officiel.
VOA Afrique en direct de Washington.
Actualité hors d'Afrique, la lutte contre le terrorisme. Le groupe État islamique a perdu du terrain en Syrie et en Irak, selon un rapport du Pentagone. Malgré cette régression due en partie aux frappes aériennes de la coalition internationale conduite par les États-Unis, le groupe djihadiste a aussi conquis de nouveaux terrains, notamment en Libye. Pour Mustapha Tovsa, journaliste basé en France, l'expansion de l'État islamique reste une menace majeure qui devrait être prise plus au sérieux par la communauté internationale.
On s'attend à ce que la communauté internationale soit réellement sérieuse dans la lutte contre ce phénomène-là. Alors maintenant, toute la question est de savoir est-ce que le fait de se contenter uniquement de bombarder de manière aérienne les bastions de l'État islamique en Syrie et en Irak, est-ce que c'est la seule solution ? Ou bien il faut envisager d'autres pistes, y compris celle de déployer des forces terrestres pour aller combattre sur le terrain militairement la direction de Daesh. Alors on parle aussi de monter une coalition locale, sous-traiter cette guerre à des forces arabes, kurdes et pourquoi pas turques demain. Donc toutes les hypothèses sont là, sauf que il y a une seule certitude, c'est que l'action du bombardement aérien n'a pas suffi à éradiquer Daesh. Bien au contraire, l'État islamique en a profité pour s'épanouir et pour augmenter son territoire.
Mustapha Tosa, journaliste basé en France. La guerre en Syrie maintenant, le groupe État islamique s'est emparé d'un quartier industriel de la ville de Deir ez-Zor après une violente offensive qui a débuté hier, d'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Si l'EI venait à s'emparer de Deir ez-Zor, ce serait la 2e capitale provinciale syrienne après Raqqa à tomber sous le contrôle du groupe djihadiste. Et puis le Conseil de sécurité de l'ONU s'inquiète des violations du cessez-le-feu au Yémen, en plein pourparlers visant à ramener la paix dans ce pays. Les précisions d'Eric Manirakiza.
Les 15 membres du Conseil ont, dans une déclaration de ce mercredi, exprimé leur profonde préoccupation au sujet du nombre de violations de la trêve durant les pourparlers de paix. La cessation des hostilités et le respect des résolutions onusiennes devraient conduire à un cessez-le-feu complet et permanent, ont-ils souligné. Le Conseil de sécurité s'est par ailleurs inquiété de la grave situation humanitaire qui continue de se détériorer au Yémen. Cette déclaration elle-même est intervenue à l'issue de sa session de mardi sur le Yémen, la première réunion publique sur le conflit yéménite depuis que celui-ci a éclaté il y a 9 mois. Une première série de pourparlers entre le gouvernement yéménite et les rebelles houthis a été ajournée dimanche et selon l'émissaire onusien Ismaël Ould Cheikh Ahmed, les deux camps se rencontreront de nouveau le 14 janvier.
Au Yémen même, le chef des rebelles chiites a appelé ses partisans à ne pas parier sur l'ONU et à résister aux forces pro-gouvernementales. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com ou alors sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.